qui fera dire à Jean-Paul II, entre autres, « Le langage des corps, c'est le langage le plus fort. » Alors il faut aussi trouver une manière d'exprimer son affection par le corps. Avec les enfants, c'est évident. Un enfant qu'on ne touche pas, c'est un enfant pratiquement qui ne peut pas vivre. Vous savez peut-être que Frédéric II avait fait une expérience. Il avait pris 10 enfants qu'il mettait dans des conditions, j'allais dire, sanitaires, de luxe, etc., parfaites, mais que l'on ne touchait jamais. Une expérience horrible, mais bon. 10 autres enfants qui étaient mis dans une situation de pauvreté, de précarité, mais qui étaient tout le temps contre leur nounou ou contre leur maman, etc. Les premiers enfants sont morts. Le fait de ne pas être touché pour l'enfant entraîne quelque chose dans son âme jusqu'au point de mourir, parce qu'il ne se ressent pas le besoin de vivre. Mais ce que l'on vit avec l'enfant, donc on le comprend, c'est exactement pareil entre époux. On ne doit pas renoncer au langage des corps, même s'il n'y a pas d'union intime, mais il peut y avoir des caresses, il peut y avoir une tendresse, il peut y avoir des baisers. C'est très important, même si pour des raisons X ou Y, on ne peut pas s'unir. Mais ne renonçons pas à l'intimité des corps. Et de ce point de vue-là, l'homme et la femme ont des vocations différentes. On l'avait déjà vu dans le premier enseignement, la vocation de la femme. Alors que le corps de l'époux et le corps de l'épouse expriment quelque chose de différent dans la manière de transmettre l'amour. Parce que le corps dit l'âme. Et l'âme dit quelque chose de l'amour. Le corps de l'homme, par l'extériorité des organes sexuels, montre qu'il est appelé à habiter le corps de la femme. Et ça, c'est quelque chose, on ne s'en rend pas compte, qui est assez nouveau pour le monde de l'Antiquité. Quand, dans le récit de la Genèse, je ne sais pas si vous vous en souvenez, à un moment donné, Dieu passe tous les animaux en revue devant Adam pour qu'il leur mette un nom. Mais il est dit, il ne trouva pas l'aide qui lui était assortie dans les animaux. C'est-à-dire que l'homme, pardon, mais n'est pas fait pour l'union sexuelle avec les animaux qui était considérée dans l'Antiquité comme une possibilité, les centaures, par exemple. Dans l'Antiquité, dans toute la mythologie, les centaures, c'était l'union de l'homme et du cheval. Mais ça, c'est absolument inconcevable. Mais c'est là où on voit la rupture entre la Nouvelle Alliance et tout le monde de la mythologie. Par exemple, les dieux de la mythologie sont sexués. Il y a des dieux hommes, il y a des dieux femmes. Parce que la mythologie, c'est transposer au niveau de la religion ce que vivent les humains. Tandis que dans l'alliance que Dieu fait avec Abraham, il y a une nouveauté absolue. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ, n'est pas sexué. Il est esprit. Et Adam, quand il passe, il voit Dieu lui faire passer devant lui tous les animaux pour mettre un nom, pour lui montrer, entre autres, qu'il est supérieur aux animaux, ce qui est toujours important de rappeler. Dans un monde où parfois on se pose la question qu'est-ce qu'il y a de plus d'importance, l'homme ou l'animal, hein, il lui dit aussi, tu n'es pas fait pour l'union avec les animaux, comme les peuples païens. La femme, avec l'intériorité de ses organes, montre d'abord une capacité d'accueil, capacité d'adaptation, de souplesse. Et l'union des corps, elle est marquée, on peut dire, par trois réalités. Premièrement, l'initiative du don. Parce que dans l'union intime, l'homme se donne. Et il faut qu'il se le rappelle. On ne se sert pas du corps de la femme, on se donne au corps de son épouse. Et ça, il faut qu'il s'en rappelle. Il faut le lui rappeler au cas échéant. Donc, l'amour est marqué par l'initiative du don, bien souvent de l'homme, l'accueil du don de son époux dans le corps de l'épouse, et la fécondité qui fait rayonner ce don, qui est l'expression de cet amour.